Vous écoutez, on lit pour vous.
La mission de Julie Dubois, des ados heureux à l'école, un texte d'Olivia Lévy, paru le 9 octobre 2024 dans la presse. Julie Dubois, directrice du Collège Sainte-Anne, une école secondaire privée à la Chine, est convaincue que l'école secondaire doit se donner la mission de rendre les adolescents heureux. Comment? En leur donnant la parole et en proposant une pédagogie innovante. Elle présente sa vision d'une école secondaire adaptée aux besoins des adolescents dans un essai très inspirant « Et si l'école rendait nos ados heureux? » Entrevue. Question. Quel est l'élément le plus important qui contribue au bien-être des élèves? Réponse. Quand on pose la question aux élèves, ce qui les rend heureux, ce sont les bons rapports qu'ils ont avec leurs enseignants. C'est fondamental. C'est ce qui marque la plupart des adolescents pendant leur scolarité. Un bon professeur qui les a aidés, écoutés, captivés, soutenus. Un enseignant passionné qui a su rendre le contenu des cours suivants et qui se soucie du bien-être de ses élèves dans un climat scolaire bienveillant, inclusif et ouvert à la diversité. Question. Comment fait-on pour captiver les élèves? Réponse. Il faut absolument faire évoluer la façon d'enseigner. Tout passe par les méthodes pédagogiques, que ce soit au public ou au privé. Est-ce qu'on a envie de transformer l'école? Est-ce que nos enfants méritent mieux? Oui, sans aucun doute. Comment fait-on? En créant un conseil des élèves pour les écouter et comprendre leurs besoins, en adoptant la pédagogie active qui place l'élève au centre de l'action. Un élève qui participe au cours en discutant, en développant son esprit critique, sa créativité et en expérimentant, sera stimulé et motivé. On ne peut plus prendre nos ados pour de simples récepteurs et leur déverser des connaissances qu'ils doivent apprendre par cœur pour les oublier aussitôt. Il faut passer à travers les contenus, évidemment, mais il y a moyen de le faire de manière intéressante, et ça ne passe pas par le bourrage de crâne. Question. Est-ce qu'il y a cette ouverture parmi les écoles secondaires? Réponse. Si on choisit de travailler avec des êtres humains qui sont en plein développement, on a le devoir de transformer notre pratique pour leur bien-être. Le manque de sens pédagogique est un obstacle au bon développement de nos élèves. On est là pour apprendre à apprendre. Il faut développer cette posture. Par exemple, les enseignants qui se placent au centre de la classe et qui placent leurs élèves dans l'action, deviennent en quelque sorte un entraîneur. Il va les motiver, ce qui sera efficace et stimulant. C'est une autre façon de voir les choses. Question. Donner la parole aux élèves, pourquoi est-ce fondamental? Réponse. On apprend tellement en écoutant nos ados. En dialoguant avec eux, on les sensibilise aussi à certaines décisions. Ils partagent leurs inquiétudes, leurs coups de cœur, les cours qu'ils préfèrent, ceux qu'ils aiment moins, les évaluations, le développement des compétences. C'est très riche de prendre le temps de les écouter, de leur donner une voix par l'entremise d'un conseil pédagogique. Je dois dire aussi qu'on ne forme pas assez nos professeurs sur l'importance de comprendre quel genre d'êtres humains ils ont devant eux et à quel point les émotions jouent un rôle central dans les processus cognitifs. Il faut éviter les mots blessants, dévalorisants et les situations émotionnelles humiliantes. Question. Parle-t-on assez de l'importance de l'organisation du temps scolaire? Réponse. Au Collège Sainte-Anne de Dorval, qui a ouvert ses portes en 2022, on a tenu compte des études scientifiques et on a pu aménager un horaire adapté à l'horloge circadienne des jeunes. en sachant que pour les ados, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, débute à 22 heures et se termine à 9 heures le lendemain, alors la journée scolaire commence entre 9h et 9h30 et se poursuit jusqu'à 16h20. Les cours de mathématiques, de français, de sciences et d'univers social se tiennent le matin, parce qu'on sait que c'est le matin que les élèves sont plus aptes à travailler cognitivement. Dans certaines écoles secondaires, il y a une pause d'une semaine à l'automne, début novembre, parce qu'on sait que c'est mieux pour le bien-être des élèves de faire une vraie pause d'une semaine plutôt que de disperser des journées pédagogiques. Question. Faut-il revoir notre conception du succès? Réponse. On doit revoir nos valeurs. On doit sensibiliser les parents qui disent souhaiter voir heureux leurs enfants, mais qui s'opposent à leurs désirs. Une carrière scientifique ne représente pas la seule voie vers le succès. La réussite ne se définit pas par un choix de profession, mais bien par le développement de passion et la curiosité que les ados cultivent. Le milieu universitaire se remet en question en ce moment, et c'est une bonne chose, car nos ados sont plus qu'un résultat scolaire, plus qu'une cote à R. Ça ne résume pas qui ils sont. L'école secondaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On vient y vivre une expérience enrichissante. C'était « La mission de Julie Dubois, des ados heureux à l'école », un texte d'Olivia Lévy, paru le 9 octobre 2024 dans La Presse.
Des programmes courts en enseignement promus par Québec sans analyse sérieuse. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 octobre 2024 dans Le Devoir. De récentes formations accélérées en enseignement promues par Québec, qui assume pour des millions de dollars les droits de scolarité de ses étudiants, gagnent en popularité. Elles n'ont pourtant fait l'objet d'aucune étude sérieuse dans la province, a constaté Le Devoir. Ce qui préoccupe plusieurs experts. Depuis 2023, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a évoqué à maintes reprises l'importance, selon lui, de miser sur la création de diplômes d'études supérieures spécialisées, DESS, visant à former des enseignants rapidement. Ces programmes, qui ont principalement vu le jour dans la dernière année à la TELUC et à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT, permettent à des étudiants détenant un baccalauréat et travaillant déjà dans un centre de service scolaire, CSS, de suivre une formation de 30 crédits qui leur ouvre la voie vers l'obtention du brevet d'enseignement. Au terme de leur formation, ces étudiants devront effectuer un stage probatoire en milieu scolaire d'une durée de 600 à 900 heures, au terme duquel ils obtiendront ce Saint Graal et cesseront d'être considérés comme étant non légalement qualifiés. De qualité inconnue. Jointe par Le Devoir, la Fédération des CSS du Québec indique qu'elle appuie les programmes qualifiants mis en place au Québec depuis 2 ans, puisqu'ils s'appuient sur les meilleures pratiques soutenues par la recherche. Or, en ce qui concerne les DESS en enseignement, une seule analyse à leur sujet a été effectuée au Québec, a constaté Le Devoir. Cette démarche a été réalisée par des chercheurs de la TELUC et se base sur des tableaux descriptifs fournis par le CSS Marguerite Bourgeois. Ceux-ci portent sur la performance de 14 étudiants au DESS en éducation préscolaire et en enseignement primaire de la TELUC lors de l'année 2022-2023. Les résultats de cette analyse ont été mentionnés dans un texte rédigé par les 3 auteurs de celle-ci et publié en février 2024 sur le site web du média indépendant La Conversation. Les 3 auteurs de ce texte, parmi lesquels on compte le professeur Steve Bissonnette et son partenaire d'affaires et collègue de la TELUC, Mario Richard, affirme qu'une majorité des enseignants non légalement qualifiés ayant entamé ce DESS ont conduit leurs élèves à de meilleurs résultats scolaires par rapport à leurs homologues qualifiés. À noter que l'entreprise des professeurs Bissonnette et Richard, le groupe Proxima, a reçu 25 000 $ du ministère de l'Éducation pour le déploiement du programme d'études conduisant au DESS. Leur analyse n'a jamais été rendue publique dans son entièreté et fait sourciller de nombreux experts qui trouvent l'échantillon utilisé faible et déplorent de ne pas avoir accès à l'ensemble des détails méthodologiques. En ce moment, le ministre est en train de généraliser le développement de ces voies-là, alors qu'il n'y a pas d'études au Québec qui appuient ce genre de formation, constate Mylène Leroux, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. Il s'agit pourtant de changements majeurs dans la formation des enseignants, rappelle-t-elle. Je trouve ça très inquiétant. Québec priorise ainsi la création de nouveaux programmes courts en enseignement sans savoir quels seront leurs effets concrets sur la rétention du personnel et la qualité des services offerts aux élèves, notamment, note pour sa part Geneviève Sirois, qui est professeure en gestion scolaire à la TELUC. C'est sûr que ça a de l'impact. Après ça, c'est de l'impact sur quoi exactement? On ne le sait pas encore parce que on est en train de construire l'avion en plein vol, poursuit l'experte. Pour moi, il devrait minimalement y avoir une réflexion de fond. Présentement, la maison brûle et on est en train de faire n'importe quoi sans trop regarder les choses à long terme, ajoute-t-elle, en référence à la gestion de la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation par le gouvernement Legault. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut juste pouvoir dire administrativement qu'on a augmenté le nombre d'enseignants légalement qualifiés ou on veut être capable de dire, comme société, qu'on a dans notre système des enseignants pleinement formés et compétents? Demande quant à elle la doyenne Julie Desjardins, qui préside l'Association des doyens et directeurs pour l'étude et la recherche en éducation au Québec. Vous écoutez des programmes courts en enseignement promus par Québec sans analyse sérieuse, un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 octobre 2024 dans Le Devoir. Québec se défend. Le ministre Drainville réplique qu'accélérer la formation des enseignants ne veut pas dire diminuer la qualité de ceux-ci. Les enseignants qui peuvent s'inscrire à ces formations courtes sont des enseignants qui détiennent déjà des compétences dans la matière enseignée et qui sont déjà dans une classe, rappelle le ministre. Avec les formations courtes, on leur permet d'aller chercher les acquis manquants en pédagogie. La TELUC mentionne de son côté que ces étudiants au DESS en enseignement doivent, en plus de détenir un baccalauréat, avoir une tâche d'enseignement minimale de l'ordre de 40% au primaire ou au secondaire ou un minimum de 320 heures d'enseignement aux adultes comme enseignants non légalement qualifiés, soit l'équivalent de 2 mois de travail à temps plein. Le ministère a d'autre part présenté en septembre un projet de règlement visant à étirer pour 4 années supplémentaires, soit de 2025 à 2029, la possibilité pour les étudiants à des DESS en enseignement d'obtenir une autorisation d'enseigner dès leur inscription à ceux-ci. Une mesure qui inquiète Julie Desjardins. Ce qui me préoccupe, c'est qu'on a retiré toutes les balises qui assuraient la crédibilité du système de formation. Là, en ce moment, on joue avec le vocabulaire. On dit que des enseignants sont légalement qualifiés quand ils n'ont pas suivi un seul cours d'éducation, relève-t-elle. Certains pourraient ainsi ne jamais suivre le DESS auquel ils se sont inscrits et conserver tout de même leur autorisation d'enseigner, évoque-t-elle. Il n'y a pas en ce moment de mécanisme pour aller vérifier qu'ils suivent des cours. une popularité croissante. Depuis leur lancement en 2023, les DESS ont gagné en popularité au détriment des maîtrises qualifiantes, plus longues et comptant deux fois plus de crédits, qui peinent à attirer et à retenir leurs étudiants. Le nombre d'étudiants inscrits à la maîtrise qualifiante en enseignement secondaire à l'UQAT a ainsi fondu de 66 % en 2023, pour s'établir à 20 contre 59 en 2022-2023. Pendant ce temps, 51 étudiants se sont inscrits en 2023 aux deux DESS en enseignement offerts par l'établissement. Le professeur Jean-Marc Nola, également directeur des programmes de DESS à l'UQAT, constate qu'il y a une tendance des étudiants à passer de la maîtrise qualifiante vers le DESS, puisque ce dernier est beaucoup plus court. La TELUC, très active dans la création de ses programmes courts ces derniers mois, a pour sa part vu le nombre de ses étudiants inscrits à un DESS en éducation préscolaire et en enseignement primaire augmenter de 61% pour atteindre 506 en 2023. Le nombre de ses inscriptions à la maîtrise qualifiante dans la même spécialisation a quant à lui chuté de 47% à l'automne 2024 par rapport à la même période en 2023 pour se limiter à 54. Cette diminution a été de 42% en 2023 à l'Université de Montréal pour cette même maîtrise par rapport à l'année précédente. Une baisse qui a continué cette année à un rythme de 22 %. Le ministère de l'Éducation fait ainsi état, dans son dernier rapport annuel de gestion pour l'année 2023-2024, de 1042 inscrits à des DESS en enseignement. Cela représente 4,9% des inscriptions totales à des programmes de formation menant à une autorisation d'enseigner, toutes catégories confondues, rapportée l'an dernier, soit 21 268. La mise en place des formations courtes est une des solutions qui existent afin de qualifier plus d'enseignants qui sont déjà dans nos écoles et qui enseignent présentement à nos élèves, affirme le cabinet du ministre Drainville dans une réponse écrite. Des frais payés. Au-delà de l'attrait relié à leur durée plus courte, l'intérêt pour les DESS pourrait aussi s'expliquer par des incitatifs financiers mis en place par Québec à Appris le devoir. Le ministère de l'Éducation a ainsi prévu une somme de 6,4 millions de dollars pour l'année scolaire en cours, afin de permettre notamment à des CSS de payer les droits d'études à ces programmes courts de personnes qu'ils emploient avec une tolérance d'engagement. Cette mesure vise spécifiquement les étudiants suivant 10 DESS offerts par la TELUC, l'UQAT, l'Université Concordia et l'UQAM, de même que le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale de l'Université de Sherbrooke. Les droits de scolarité de tous ces nouveaux programmes universitaires sont remboursés dans le cadre de cette mesure, confirme le ministère. En ce moment, le ministre est en train de généraliser le développement de ces voies-là, alors qu'il n'y a pas d'études au Québec qui appuient ce genre de formation, selon Mylène Leroux. Cette mesure exclut toutefois les étudiants suivant une maîtrise qualifiante de 60 crédits en enseignement, une voie existant pourtant depuis le milieu des années 2000 et se voulant plus complète que ces nouveaux programmes courts selon plusieurs acteurs du milieu. Dans ce contexte, plusieurs de nos étudiants qui étaient déjà inscrits à la maîtrise se sont fait dire par leur employeur d'aller plutôt vers le DESS et de quitter la maîtrise, confie la doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Alain Mamard. Les étudiants à la maîtrise qualifiante peuvent, pour leur part, avoir accès à certaines bourses de persévérance octroyées par leur université dans le cadre d'un fonds de 3 millions de dollars déployé à cette fin cette année par Québec. Ils ont donc accès à une cagnotte deux fois plus mince que celle allouée aux étudiants dans des DESS en enseignement. Des impacts incertains. Il est d'ailleurs difficile de mesurer actuellement le taux d'abandon au sein des DESS en enseignement, puisque la plupart de ces programmes sont trop récents pour que des données à ce sujet aient été compilées. Mais sur le terrain, plusieurs acteurs du milieu s'attendent à ce que les enseignants non légalement qualifiés suivant ces programmes soient nombreux à les abandonner avant d'avoir obtenu leur brevet d'enseignement. La recherche, surtout aux États-Unis, démontre clairement que les gens qui sortent des programmes courts restent moins dans la profession. C'est un autre enjeu à ne pas perdre de vue, souligne la doyenne Alem Amar. Un constat qu'avait d'ailleurs effectué le Conseil supérieur de l'éducation à l'endroit du programme court Teach for America dans un rapport paru en novembre 2023. Est-ce qu'on veut les former rapidement pour les perdre plus rapidement, ou est-ce qu'on veut former des gens qui vont rester 30 à 35 ans dans la profession? Se demande Mme Amar. C'était Des programmes courts en enseignement promus par Québec sans analyse sérieuse, un texte de Zachary Goudreau, paru le 21 octobre 2024 dans Le Devoir.
Vous regardez votre téléphone en marchant? À vos risques et périls. Un texte de Pierre Saint-Arnoux de la presse canadienne paru le 15 octobre 2024 dans Le Devoir. On savait déjà intuitivement qu'il est plus risqué de texter, lire ou même écouter de la musique en marchant que de simplement marcher en gardant son attention, mais les preuves empiriques de ce danger sont rares et souvent anecdotiques. Une nouvelle étude réalisée par l'Université de Colombie-Britannique, UBC, avec des caméras informatiques soutenues par l'intelligence artificielle à deux intersections très achalandées du centre-ville de Vancouver, fait état d'une différence marquée entre les risques que courent les piétons distraits par leur téléphone intelligent et ceux qui marchent sans distraction. Comportement plus risqué. L'étude, publiée dans la revue spécialisée Accident Analysis and Prevention, démontre que les piétons distraits se positionnent plus près des véhicules, se déplacent à vitesse réduite et cèdent rarement le passage aux véhicules qui approchent. De plus, ils changent rarement leur angle d'interaction sans égard à la proximité latérale des véhicules, ce qui indique qu'ils demeurent presque complètement inconscients de leur environnement immédiat. Le niveau de distraction fait grimper le niveau de risque de manière importante. Ainsi, par exemple, les interactions entre véhicules et piétons non distraits montraient une baisse de 46,5% de la sévérité des conflits de circulation, mesurée par la durée moyenne du temps avant collision, et une augmentation moyenne de 30,2% de la distance minimale avec un véhicule comparativement aux interactions entre véhicules et piétons distraits. Les piétons non distraits font des choix plus sécuritaires lorsqu'ils interagissent avec des véhicules, écrit le co-auteur principal, le Dr Tarek Sayed, ingénieur et expert en sécurité des transports. Ils maintiennent une plus grande distance des véhicules, cèdent plus fréquemment le passage au trafic et ajustent leur vitesse selon la circonstance. Les conducteurs méfiants. Les chercheurs ont également constaté que les conducteurs modifient leur comportement en présence de piétons distraits. Ils choisissent en effet souvent de décélérer en voyant des piétons distraits, démontrant ainsi une reconnaissance du risque potentiel. La co-autrice principale, Tara Al-Sharif, étudiante graduée en génie civil à UBC, explique que cette étude permet d'envisager des manières d'atténuer le risque que présentent les piétons distraits en ajustant les cycles de signaux au passage piétonnier ou en intégrant des signaux sonores pour indiquer aux piétons quand il est sécuritaire de traverser. Les autorités municipales pourraient aussi afficher des avertissements spécifiquement destinée aux piétons distraits par leur téléphone intelligent et possiblement même introduire des notifications mobiles qui décourageraient l'usage du cellulaire en traversant une intersection. Au Québec, distraction des deux côtés. Au Québec, la dernière analyse approfondie des accidents impliquant des piétons date de 2016. Mais on y apprend tout de même que la distraction est de loin la cause principale des accidents causant des dommages corporels aux piétons, soit 64 % de ceux-ci. Certes, ce sont les conducteurs de véhicules distraits qui sont massivement responsables, à 68 % de ces accidents. Mais les proportions de ces accidents causés par un piéton distrait, 15 % ou lorsque le conducteur et le piéton sont tous les deux distraits, 17 % ne sont pas négligeables. Le document de 2016 de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAC, intitulé « Profil détaillé des faits et des statistiques touchant les piétons », fait référence à une étude australienne de 2007 sur l'observation de piétons qui utilisent ou non un cellulaire en traversant une intersection. On y apprend que plus de 20 % des utilisateurs de cellulaires regardaient leur appareil en traversant, la plupart du temps pour envoyer des messages texte. Là aussi, on notait que l'utilisation d'un cellulaire influençait aussi la vitesse de marche et l'analyse de la circulation avant de traverser. On y évoque une autre étude réalisée en 2008 portant sur le comportement de personnes utilisant soit un cellulaire, soit un baladeur, ou qui n'utilisait aucun appareil à des passages pour piétons. Sans surprise, on rapporte que les piétons utilisant un cellulaire traversaient plus souvent de façon non sécuritaire que les piétons des deux autres groupes. Il s'agissait de près de la moitié, 48 % d'entre eux, en comparaison avec 16 % des piétons qui utilisaient un baladeur et 25 % des piétons sans appareil. On conclut donc que l'utilisation d'un cellulaire en traversant la rue semble inhiber les comportements prudents et pourrait représenter un danger pour les piétons. Bien que ces études datent respectivement d'il y a 17 et 16 ans, il y a fort à parier que ces comportements ne se sont pas améliorés et qu'au mieux, ils sont demeurés stables si l'on se fie à la dernière étude des chercheurs d'Université de Colombie-Britannique. C'était « Vous regardez votre téléphone en marchant, à vos risques et périls », un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne paru le 15 octobre 2024 dans Le Devoir.